La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie de Philippe K. Dick, elle n'a pas été de tout repos. Quelques jours après sa naissance, sa sœur jumelle meurt de malnutrition. Il est très jeune, agoraphobe. Son père a quitté le foyer. Il vit avec sa mère dans une relative misère. Et puis une fois adulte, il se marie 5 fois et se tue au travail. N'arrive pas à se faire reconnaître dans le genre de la littérature générale. Bref, la vie de Dick fut assez difficile. Mais tout cela a également produit un écrivain à l'univers personnel à nul autre pareil et un homme à la sensibilité extrêmement développée qui nous a légué des œuvres de premier plan comme nous le voyons ici depuis lundi. Lundi justement, nous l'avons vu, c'était au cours de la biographie avec Étienne Barillier. Hier, nous nous sommes penchés sur les grands thèmes de l'œuvre de Dick avec Laurent Kessy, qui nous a parlé du rapport de l'écrivain avec les États-Unis, mais aussi de ses nouvelles, dont il publie l'intégrale dans la collection Quarto chez Gallimard. Enfin, demain, nous achèverons ce cycle avec d'abord Emmanuel Carrère, qui nous parlera de la façon dont son univers personnel de Dick, celui de Dick, a pu inspirer celui d'Emmanuel Carrère. Et puis en seconde partie, c'est Christophe Franco Rogelio qui évoquera les liens entre Dick et la musique. Et aujourd'hui ?
Je sens que nous allons passer un petit moment bien agréable. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr.
Aujourd'hui, pour réfléchir à ce qui constitue l'imaginaire de Dick et évoquer son étonnante contemporanéité, nous sommes en compagnie du journaliste, écrivain et essayiste Ariel Kirou, l'auteur de L'ABC Dick, publié aux éditions Inculte en 2009 et bientôt réédité. Également co-scénariste du documentaire Les Mondes de Philippe K. Dick. Il vient enfin de publier aux éditions ActuSF un ouvrage intitulé Dans les imaginaires du futur entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale. Bienvenue à tous, voici La Compagnie des Œuvres.
C'est ce que je suis, paralysé par l'imagination. Sur ma voiture, un pneu crevé est pour moi A, la fin du monde, et B, l'œuvre de monstre, bien que j'ai oublié pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'aime la SF. J'aime en lire, j'aime en écrire. L'auteur de SF ne recherche pas simplement les possibilités, mais les possibilités les plus folles. Ce n'est pas un simple « et si », mais un « mon Dieu, et si », frénétique et hystérique. Les Martiens sont toujours en train de débarquer.
Attention, attention, terrien. Important message de l'espace, attention. Nous, créatures de la planète Mars, communiquons. Nos vaisseaux spatiaux survolent votre planète. Notre mission est invasion. Stop. À vous.
Bonjour Ariel Kirou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à distance, pas depuis mars tout à fait, mais quand même pas tout près non plus. Un mot pour commencer sur votre rapport personnel avec cet écrivain. Est-ce que vous vous souvenez de votre première impression lorsque vous avez découvert les textes de Dick ?
Oui, je m'en souviens plutôt bien, parce que Dick faisait vraiment partie de mon univers familial. Mon père, qui était Ado Kirou, était l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Le surréalisme au cinéma, et on vivait vraiment dans un univers surréaliste.
C'est-à-dire, vous avez un exemple.
C'est-à-dire proche les images que j'ai en tête, c'est Tanguy, c'est Max Ernst, c'est-à-dire des paysages bizarres, avec des objets cassés, comme ça, sur la lune, ou je ne sais quoi. Et donc, dans cette atmosphère, en fait, où l'imaginaire était très fort et très décalé par rapport à la réalité quotidienne, c'est totalement de façon tout à fait logique que l'un des tout premiers livres que j'ai lus à 12 ou 13 ans était Ubik de Philip K. Dick. Il faisait tout simplement partie de l'univers, hein, c'était logique. J'avais commencé par un livre de Frederick Brown qui s'appelait Martien Go Home, justement, à propos de Mars. Et juste après, j'ai lu Ubik et le dieu venu du centaure. Alors j'ai rien compris. Mais ça m'a complètement fasciné. C'est-à-dire, Ubik, je crois que je l'ai relu 2 ans plus tard, alors que j'avais 14 ou 15 ans. Et depuis cette époque, j'ai tout simplement, je n'ai jamais quitté Philip K. Dick. Il m'a toujours accompagné. La seule différence, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de comprendre pourquoi il me parlait. Et j'ai essayé de voir en quoi il pouvait m'aider à comprendre le monde, le quotidien que je vivais.
Alors, vous avez évoqué le nom de Max Ernst, le sculpteur surréaliste. Est-ce qu'il y a du surréalisme, dans le sens du courant surréaliste, dans les romans, les nouvelles de Dick ?
Moi, je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que oui pour plusieurs raisons. Contrairement à ce qu'on imagine, le courant surréaliste et plus encore peut-être le mouvement Dada qui l'a précédé, qui avait cette logique de l'absurdité, qui essayait de renverser les principes classiques de réalité, eh bien, donc ces deux mouvements, le mouvement Dada ou le mouvement surréaliste, ont toujours remis en cause ce qui semblerait être notre réalité quotidienne ou notre économie telle qu'elle fonctionne. En utilisant notamment la notion de rêve, c'est-à-dire que cette idée que l'on pourrait sans même se rendre compte vivre dans un rêve, dans une sorte de monde parallèle, mais aussi la capacité à rêver et à tenter de concrétiser ses rêves. Je pense que ces deux idées-là, surtout d'ailleurs la première, c'est-à-dire la mise en cause de la réalité et le questionnement donc sur l'humain qui va avec, sont au centre des œuvres de Philip K. Dick.
Est-ce que Dick avait connaissance, je ne sais pas, des écrits de Breton, par exemple ?
Alors, quand j'ai lu la première fois Philip K. Dick, non, je n'avais pas connaissance des écrits de Breton. Je les ai découverts très vite derrière, parce que tout simplement, c'était, comme je vous le disais, le manifeste du surréalisme.
Mais est-ce que vous savez si lui a lu, par exemple, cette texte-là ?
Alors ça, je ne saurais dire. Il était très 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 inspiré de tout ce qui était symboliste, tout ce qui était magie. Il lisait, je crois que hier Laurent Kessy et Étienne ont parlé de la gnose, donc cette façon, cette mystique religieuse, tout ce qui était de l'ordre de l'étrange le fascinait et nourrissait son regard, y compris sur la science, sur le quotidien, sur la politique, sur l'économie. Et à ce titre, ce lien qu'il faisait entre, on va dire, des imaginaires un peu décalés de je ne sais quelle planète ou tout simplement de la Terre, de nos rêves, et de la réalité qu'il pouvait vivre et qu'il exacerbait quelque part, en fait, dont il poussait les tendances, eh bien ça, c'est une démarche qui, à mon sens, est très surréaliste. C'est-à-dire, non pas quelque chose qui serait coupé du réel, mais qui retrouverait un lien avec le réel en passant par le rêve et par les imaginaires, un peu comme si on créait des images absolues. Il y a un personnage en fait qui s'appelle le Wub, W-U-B, qui est un cochon télépathe dans les toutes premières nouvelles donc de Philip K. Dick. C'est un cochon, quand on le mange, on devient ce qu'on mange. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est une figure, c'est une sorte d'immense cochon qui raconte l'Odyssée d'Homère ou l'histoire de Socrate. Le commandant d'un vaisseau qui mange ce Wub, ce cochon télépathe, il devient le Wub. Voilà.
Alors, est-ce qu'on va devenir nous aussi ce qu'on mange ? Parce que l'une des grandes questions que vous posez dans votre ABC Dick, Ariel Kirou, c'est à quel point finalement est-ce que nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction ? C'est même le sous-titre de votre ABC Dick. Alors, allons-y. Comment vous semble-t-il que Dick a anticiper l'avenir et surtout, pour commencer, de quelle façon l'a-t-il anticipé ? Est-ce qu'il l'a anticipé d'une façon scientifique ? Est-ce qu'il l'a anticipé d'une façon plutôt sociétale ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors, il l'a anticipé d'une façon déjà plutôt sociétale, plus sociétale que scientifique.
C'est pas Jules Verne, quoi.
Voilà, exactement. C'est pas Jules Verne. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de la science, et qu'il ne lisait pas des journaux scientifiques, bien au contraire. Son regard était beaucoup plus sociétal, et je dirais que qu'il était même parfois à la frontière du fantastique. C'est un regard qui est très très marqué par, comme je le disais tout à l'heure, par les logiques imaginaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que les textes de Dick, bien souvent, ressemblent à des fables. Mais des fables, non pas comme celles de Molière, hein, non pas du temps passé, mais des fables d'aujourd'hui qui réinventent nos mythes et les réactualisent au filtre de nos obsessions contemporaines, de la drogue, du virtuel, du questionnement sur la réalité, de mutations X ou Y.
Un peu comme Black Mirror, la série télévisée, est aussi un petit peu sur ce modèle de la fable qui décrypte ce que l'on vit aujourd'hui.
C'est relativement proche. Il y a peut-être encore plus d'humour chez Philip K. Dick que dans Black Mirror. Il y a de l'humour dans Black Mirror, hein, bien évidemment. Mais effectivement, le point commun, il est celui-là. Je vais vous donner un exemple très très simple. Dans un des livres de Dick, qui est Le Dieu venu du Centaure, qui est un livre de 1964, il met en scène un monde où il y a eu le réchauffement climatique. Et il se retrouve à 80 degrés centigrades, enfermé chez lui, bien évidemment, parce qu'effectivement, à cette température-là, on sort pas, c'est impossible. Et puis à un moment donné, tout le système de réfrigération se casse. Et le grand malheur pour lui, c'est que sa collection de vinyles fond. Et son grand bonheur, c'est que le perroquet vénusien d'à côté, qui l'embêtait à donf, grille. Voilà. Hein,
il n'avait pas anticipé le passage au MP3.
Voilà, exactement. Et donc, pour le coup, il anticipe le réchauffement climatique par ce billet-là, mais comment il l'anticipe ? Tout simplement parce qu'il lit dans un journal quelque chose sur le réchauffement climatique, avec cette possibilité que dans les années qui viennent, la température monte de 1, 2, 3, 4 degrés, il pousse le bouchon très très loin, et il le met en scène au travers du quotidien, le sien, en l'occurrence celui de son personnage, du Dieu venu du Centaure. Donc voilà, donc c'est une fable du quotidien, c'est que au fond ça devient exagéré, comme il est un peu paranoïaque, il a un peu tous les types de troubles mentaux qu'on puisse imaginer sans les avoir vraiment, eh bien, il exagère, il prend des signaux faibles, comme on dit parfois, et il en fait des tendances fortes dans ses romans. Et c'est comme ça qu'il anticipe notre présent ou même notre futur. C'est qu'à un moment donné, il n'a jamais anticipé réellement la réalité virtuelle en tant que telle, avec le matériel qu'on utilise, mais il a mis en scène dans des nouvelles comme Reconstitution historique, Le monde qu'elle voulait, dans la version donc de Blade Runner, Les androïdes rêvent-ils des moutons électriques, ou Le Dieu venu du Centaure, il imagine un système de réalité virtuelle passant par la drogue, hein, on prend une drogue, et par des univers factices, en l'occurrence dans Le Dieu venu du Centaure, c'est par exemple l'univers de la poupée Barbie, hein, qu'il appelle la poupée Pat, et les colons de Mars se retrouvent à vivre ensemble, comme s'ils étaient Ken et Barbie, en fait. Et ça, il l'a trouvé comment, cet exemple-là ? En regardant sa fille jouer à Barbie, et complètement prise, complètement capturée par l'imaginaire de Barbie et de Ken. Donc voilà, ce sont des fables contemporaines.
Mais alors ces fables-là, elles recoupent parfois des imaginaires de philosophes. Vous parlez du réchauffement climatique, on pourrait citer Bruno Latour, l'auteur de Face à Gaïa. Il y a un petit peu l'idée de Gaïa quand même dans l'univers de K. Dick. On pourrait citer aussi Baudrillard. Alors K. Dick a fait des études de philosophie qui ont été avortées, comme on l'a vu dans la première émission. Mais c'est vrai qu'on retrouve cette pensée comme ça chez un certain nombre de personnalités d'aujourd'hui, ou en tout cas de personnalités qui l'ont suivi.
Alors, ce qui est assez drôle par rapport à Gaïa, c'est qu'il a écrit une nouvelle qui s'appelle Planète pour hôte de passage, qui met en scène la Terre. Et la Terre, après un cataclysme nucléaire, donc très longtemps après, mais où l'espèce humaine, en tout cas les espèces qui vivent sur la Terre, sont des hybrides. L'humain a totalement changé. Et il y a des vrais humains comme nous qui sont protégés, comme en tenue de cosmonautes, sur ce qui est devenu la Terre. Et à un moment donné, ils se rendent compte que c'est plus leur Terre à eux, quelque part. La Terre a tellement toussé, a tellement été chahutée, elle s'est tellement transformée qu'elle est devenue une terre pour d'autres types d'humains, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui effectivement fait référence à l'idée de l'hypothèse Gaïa, c'est-à-dire de la Terre comme un être vivant, mais un être vivant sans pilote, un être vivant qui n'est vivant que par l'enchevêtrement des vivants qui la composent, hein, des vivants, les éléments, etc. Donc ça, c'est peut-être pour Latour, qui lui n'est pas, je pense pas, un lecteur de Philip K. Dick. En revanche, vous parlez de Baudrillard, Jean Baudrillard, donc le philosophe. Jean Baudrillard, lui, était un très grand lecteur, et d'ailleurs de J.G. Ballard, qui est un contemporain de Philip K. Dick, légèrement, un petit peu après peut-être, et de Philip K. Dick, qu'il utilisait, qu'il mettait en scène, parfois en faisant des petites erreurs, effectivement, comme l'a dit hier Laurent, au sein de ses textes. Hein. Et ce qu'il expliquait, c'est, et là encore je vais donner un exemple, c'est que des gens comme Ballard, J.G. Ballard ou Philippe K. Dick réinventaient le réel comme fiction. À partir du moment, disait Jean Baudrillard, où notre monde est totalement un monde de simulation, un monde où tout est faux, tout fonctionne par la fiction, les vrais auteurs de fiction ont la capacité de retrouver le réel par leur art de raconter des histoires.
Hein. Alors, c'est un renversement complet de la perspective.
Exactement. Voilà. Et alors on pourrait donner des tas d'exemples de ça. Moi, j'ai envie d'en donner un, peut-être, qui est assez outré, qui correspond d'ailleurs à cette idée de fable. C'est dans une autre nouvelle encore, qui s'appelle Visite d'entretien. Il y a ce qu'on appelle un swivel. Et un swivel, c'est une sorte de machine qui visiblement est tient à la fois de l'intelligence artificielle et de la biologie synthétique, qui a résolu le problème de la loyauté aux idéologies, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit le libéralisme, le communisme, la société de consommation. Je veux dire, c'est ce Swivel en fait qui permet de traiter ce problème de la loyauté aux idéologies dominantes comme un problème de plomberie. Et quand le Swivel est cassé, il faut appeler le réparateur pour qu'il vienne vous le réparer. Et il entre comme un vrai réparateur. Il sonne à votre sonnerie, à votre sonnette. Vous allez lui ouvrir. Vous êtes dans le salon. Il rentre et puis il essaye de réparer le Swivel et vous le payez pour la réparation du Swivel. Comme ça, de nouveau, vous pouvez être fidèle à l'idéologie dominante grâce aux nouvelles technologies. Alors évidemment que Philippe K. Dick n'a pas inventé les GAFAM, il n'a pas inventé Google, il n'a pas inventé Facebook. En revanche, ce qu'il met en scène, c'est la façon dont ce type d'outil nous rend conforme, en fait. Et il le met en scène au travers d'une scène de la vie quotidienne avec un vrai réparateur, comme un réparateur de voiture ou de machine à laver, qui vient, qui sonne chez vous et qui répare. Hein, donc voilà, c'est vraiment ce type de fable qu'il raconte, et c'est par ce type de billet qu'il réinvente le réel comme fiction. Le réel qui est sorti de la réalité revient par le biais d'histoires qu'on se raconte et qui nous permettent de voir finalement, de nous dessiller les yeux par rapport à notre monde, notre aujourd'hui, notre quotidien.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Donc votre idée, Ariel Kirou, c'est surtout que Dick est notre parfait contemporain et que la lecture de Dick, c'est un acte éminemment contemporain. On pourrait peut-être s'amuser à prendre un autre exemple de l'actualité que tout le monde a en tête, c'est la pandémie de Covid-19. En quoi pourrait-on dire qu'elle est dickienne, et est-ce que Dick a pu, d'une façon ou d'une autre, non pas la prévoir en tant que telle, mais anticiper ce genre d'événement?
Alors, il faut bien voir que Philippe K. Dick n'est pas, comme il le dit lui-même, il s'en amuse parfois, un prescient, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui voit
c'est
réellement
l'avenir. C'est pas un précog,
l'avenir.
Comme ces singes qui arrivent à voir l'avenir dans une de ces
nouvelles. Dans Minority Report.
Voilà.
Dans le film Minority Report, rapport minoritaire dans la nouvelle de, voilà, dans la nouvelle. Alors. Moi, j'aurais tendance à dire en fait que alors j'ai pas mémoire hein, de pandémie, de virus dans les œuvres de Philippe K. Dick. En tout cas, de virus réels comme le Covid-19. En revanche, ce qui est clair et ce qui est limpide, hein, c'est que lorsqu'il met en scène un monde post-apocalyptique, comme dans Docteur Blood Money, comme dans le Blade Runner, donc les androïdes refilent des moutons électriques, qui est le roman à son origine, il met en scène un désastre qui dure en quelque sorte, qui fonctionne sur le long terme, un peu comme la radioactivité, hein, c'est-à-dire comme si effectivement le désastre, l'apocalypse, il n'est pas quelque chose à venir, il n'est pas quelque chose qui s'est passé auparavant, on est totalement dedans et on essaye de faire avec.
Ça a entraîné un changement total du monde et même un changement des relations sociales, par exemple, des personnes qui avaient des petits emplois deviennent des emplois essentiels. Ça c'est quelque chose qui peut quand même nous faire penser à ce qui s'est passé pendant le dernier confinement, où par exemple des métiers comme le métier de caissier, caissière est devenu tout d'un coup un métier très important.
Oui, c'est très exactement ça. On peut continuer sur l'exemple de ce livre très étonnant de 1965, je crois, qui est Docteur Blood Money. Parce que pour rebondir par rapport à ce que vous dites, il y a un personnage qui est un faux comel, c'est-à-dire un handicapé qui n'a ni bras ni jambes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'effet du désastre. Et ce faux comel, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle sur sa petite voiture en quelque sorte automatique, hein, eh bien, il a des dons. Il a des dons de télékinésie, il déplace des objets, il a des dons de réparation absolument hallucinants, et lui qui était tout en bas de l'échelle sociale, il se retrouve, non pas tout en haut, mais en tout cas, absolument essentiel. C'était un invisible dans son coin qu'on méprisait, et soudainement il devient un personnage tout simplement indispensable et qui est vécu par la société comme indispensable. Donc l'exemple de ce faux comel, de ce personnage qui s'appelle Hopi, hein, dans Docteur Blood Money, il y en a beaucoup d'autres, hein, dans des tas de romans comme L'œil du cyclone, Philip K. Dick met en valeur des anti-héros, des damnés de la Terre, des gens, et qui souvent d'ailleurs sont des réparateurs ou sont de vagues petits animateurs radio. Je dis pas ça parce que je suis à France Culture.
Avec un vague petit animateur.
Voilà. Mais en tout cas, c'est des personnages qui sont absolument pas des grands scientifiques, des grands milliardaires, des grands héros. C'est vraiment des personnages qui se débattent dans le quotidien. Ils arrivent pas à ouvrir leurs portes. Il y a le célèbre Joe Sheep de Ubik qui veut faire un procès à sa porte. Il arrive même pas à entrer chez lui parce qu'il a plus un sou. Et malgré son côté totalement, on va dire, ringard, ce personnage va réussir des choses assez extraordinaires dans le roman et va réussir à démêler d'ailleurs le secret de cette semi-vie, en fait, quelque part, donc au cœur d'un roman comme Ubik. Donc c'est vrai que ces réparateurs, ces animateurs radio, ces même balayeurs des fois de chez Philip K. Dick sont les personnages, on va dire, clés de beaucoup de ces romans. Et là, pour le coup, ils le sont là encore sur la durée, parce que le contexte des romans de Dick, hein, et des nouvelles de Dick est un contexte où il y a eu un changement profond. Alors bien souvent, c'est un changement de l'ordre d'un désastre radioactif, un désastre nucléaire ou autre.
C'est souvent une bombe, parce qu'à l'époque, c'est... évidemment, ils sont, dans les années 60, fascinés par la possibilité de la destruction par une bombe nucléaire.
C'est tout à fait ça. C'est le contexte des années fin des années 50 et années 60. C'est vraiment la peur, on va dire, dominante. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est que ce décalage par rapport à notre aujourd'hui, il marche très bien parce que tout simplement qu'il s'agisse de pandémies avec le risque de nouvelles pandémies, de rebond de la pandémie, d'autres virus, ou que ce soit le réchauffement climatique. Dans les deux cas, on a en fait des désastres. D'abord, qui sont dans le temps long, et ensuite des désastres sans coupable affiché. C'est-à-dire, on est tous à la fois un peu responsables du désastre, du réchauffement climatique, peut-être même de la pandémie, hein. On est culpabilisé en permanence. Mais en même temps, on n'est pas coupable, en fait, hein. Et c'est une sorte de, le désastre est un désastre, on va dire, mesuré, qui peut nous permettre de rebondir, mais qui est là de façon permanente. Et c'est en ce sens-là que les textes de Philip K. Dick sont éminemment contemporain.
Ça fait penser quand même à la collapsologie dont il a quand même beaucoup été question ces dernières années, et singulièrement ces derniers mois, avec l'idée que la pandémie de Covid-19 c'était l'avènement du grand collapse que certains prédisent.
Alors c'est intéressant. Bon, après, c'est vrai que au contraire de Laurent Kessy ou par exemple, ou j'ai oublié son nom, de notre premier intervenant, Étienne Barillier, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Eux ont parlé de choses qui sont réellement, on va dire, qui correspondent à la vie, à l'œuvre de Philip K. Dick. Là, pour le coup, je dirais que par rapport à la collapsologie, ce que je vais vous dire là, c'est plus une vision subjective. C'est-à-dire que ce qui est assez formidable chez Dick, c'est que au-delà de ce qu'a été son réel, sa réalité, sujet à de multiples interprétations, chacun peut lui aussi interpréter les textes de Dick. C'est des textes très 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 ouverts. Et par exemple, par rapport à la collapsologie, à la logique de l'effondrement, je considère, mais ça c'est mon point de vue, que dire qu'il y a un effondrement et qu'il va venir demain, genre en 2025 ou en 2030, est absurde. Je considère qu'il faut absolument préserver la pluralité des effondrements, mm-hmm. en fait. Et surtout, ne pas oublier que ces effondrements, c'est pas quelque chose qui est à venir, mais quelque chose qu'on vit sur le long terme, comme une sorte de délitement qui vit de manière totalement différente en fonction des lieux et des moments. Et à mon sens, cette vision, et ça c'est ma vision subjective de Philippe K. Dick, cette vision que j'ai plutôt critique de la collapsologie, mais en prenant acte, malgré tout, de ce qu'elle dit, c'est-à-dire du fait que la situation s'empire finalement, en fait, hein, par de multiples biais, les ressources qui baissent, qui diminuent, le réchauffement climatique, les pandémies, eh bien, j'utilise, en ce qui me concerne, Philippe K. Dick, il me sert pour voir ce qui est en train de se passer et mesurer à quel point il faut surtout pas simplifier et de transformer notre avenir en une voie univoque, en une autoroute. Hein. Et comment on peut, et je pense que Philippe K. Dick est très utile parce qu'il nous montre finalement que, y compris dans les pires désastres, qui sont multiples chez lui et vécus de manière très différente par ses personnages, eh bien, il y a des solutions, des voies de sortie. Je donnerais un exemple qui fait écho à Tchernobyl. C'est toujours dans Dr. Blood Money. À un moment donné, il y a un instituteur. Et cet instituteur, il part à la chasse aux champignons, en fait. Et donc là, et forcément, les champignons, bah, ils peuvent être potentiellement radioactifs. Mais il y en a certains qui sont évidemment très beaux, assez formidables. Et il réfléchit tout seul. Il se dit, mais est-ce que c'est pire qu'avant qu'on devait faire avec la pollution? On doit s'orienter, on doit trouver des voies pour avancer en fait dans ce monde. Mais c'est pas pire quelque part. C'est juste que les conditions ont changé, elles sont peut-être plus dures, mais ces conditions plus dures, elles sont l'occasion de rebattre les cartes, elles sont l'occasion tout simplement de transformer peut-être d'avoir d'autres types de hiérarchie sociale ou de casser les hiérarchies sociales, et elles permettent de se réinventer. Et c'est pour ça que le pessimisme de Philippe K. Dick, qui est absolument tangible, c'est un pessimisme actif, c'est un pessimisme qui nous ouvre des possibles.
Le circuit principal de l'école continua de l'observer. Cette machine, il le savait, poursuivait sa rengaine selon les instructions d'une bande magnétique. Mais son fonctionnement pouvait être modifié à chaque niveau, en fonction du comportement de son assistance. Il ne s'agissait pas d'un système fermé, elle comparait les réponses des enfants avec ses propres bandes, puis elle les assortissait, les classait, et donnait finalement une réponse. Il n'y avait pas place pour une réponse tout à fait singulière parce que la machine éducative ne pouvait reconnaître qu'un nombre limité de catégories. Néanmoins, elle donnait l'impression convaincante d'être vivante et capable de vivre. C'était un triomphe de la technique. Son avantage sur un professeur humain résidait dans sa capacité de s'occuper individuellement de chaque enfant. Une machine éducative pouvait enseigner à un millier d'élèves sans jamais en confondre deux. Ses réponses varient avec chaque enfant, de sorte qu'elle devenait à chaque fois une entité subtilement différente. Mécanique bien sûr, mais d'une complexité presque infinie. Les machines éducatives démontraient un état de fait dont Jacques Bollen était bien conscient. Il y avait une étonnante profondeur dans ce qu'on appelait artificiel. Malgré tout, les machines éducatives le dégoûtaient, car l'école communale tout entière allait dans une direction contraire à ses aspirations. L'école n'était pas là pour informer, ni pour éduquer, mais pour modeler les enfants, et d'une manière sévèrement restrictive. Elle était le lien qui les unissait à leur héritage culturel, et elle colportait cette culture tout entière dans la jeunesse. Les élèves y étaient pliés. Le but était la perpétuation de la culture, et le moindre trait particulier qui pouvait pousser un enfant dans une autre direction devait être éliminé. Jack se rendit compte qu'il s'agissait d'un combat entre la psyché composite de l'école et les psychés individuelles des enfants, mais que la première détenait tous les atouts. Un élève qui ne répondait pas d'une manière adéquate était considéré comme autistique, c'est-à-dire orienté selon un facteur subjectif qui prenait la priorité sur sa compréhension de la réalité objective. Et un tel enfant finissait par être renvoyé de l'école. Après cela, il devait aller dans une toute autre sorte d'école conçue pour le rééduquer, le camp Ben Gourion. Il n'était plus possible de l'instruire, on ne pouvait plus le traiter que comme un malade.
Vous êtes en présence du premier cortex synthétique, se programmant et agissant avec une autonomie totale. Un cerveau, M. Mokri, un cerveau artificiel.
Une intelligence créatrice qu'aucun homme, qu'aucun ordinateur existant ne peut égaler. Il n'est pas conçu à partir d'éléments électroniques, mais organiques, comme notre cerveau.
C'est la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture avec cet extrait du roman de Dick, Glissement de la Terre sur Mars, lu ici par Alain Carazé. Alors parlons peut-être un peu des androïdes, ces personnages à la fois robots mais qui ressemblent à des humains, qui sont très présents dans son œuvre autour de la question de l'artificiel et du naturel, de la différence justement qu'il peut y avoir entre un androïde et un humain. C'est tout à fait une obsession de Dick, Ariel Kirou, et vous-même, dans votre ABC Dick, vous creusez pas mal cet aspect des choses. En quoi c'est très important?
Alors déjà, bon, juste une info, c'est Glissement de temps sur Mars, en fait, hein, le titre exact, effectivement. Voilà.
C'était bien aussi, Glissement de la Terre sur Mars. J'espère qu'un jour, un livre portera ce titre.
Oui, c'est joli comme titre. Hein.
C'est plus poétique, c'est plus surréaliste, au fond.
C'est une invention. Bon, l'exemple donné, en fait, bon, il y a beaucoup à raconter, hein, évidemment, sur la logique de l'androïde. Hein, donc, l'extrait parlait des machines éducatives. Voilà, on est complètement dans ce roman Glissement de temps sur Mars. Il y a beaucoup d'exemples de ce type, avec notamment ces machines éducatives, ces machines réflexes. Mais je crois que ce qui est très très important à avoir en tête en ce qui concerne Philippe K. Dick, hein, c'est que pour lui, le côté mécanique, le côté machine, c'est cette logique du réflexe, cette incapacité à ce qu'il appelle regimber, c'est-à-dire à grogner, à aller contre sa programmation, contre les ordres qui nous sont donnés. Pour lui, et je crois que c'est ça qui est primordial, c'est que la machine n'est pas forcément une machine au sens matériel du terme. L'humain peut devenir une pure machine, et il y en a plein d'exemples. Par exemple, dans Glissement de temps sur Mars, hein, dans le glissement de temps sur Mars, il y a à la fois cette machine éducative, qui est une pure machine qui rend conforme les élèves, mais il y a aussi un dialogue entre justement le personnage dont parle l'extrait, donc Jacques Bollen, et un employeur potentiel face auquel il se trouve.
Ou dans Blade Runner, c'est aussi un humain qui exécute des androïdes.
Alors,
donc, quelle est la machine,
en fait? On va parler un peu de Blade Runner, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce même roman, Glissement de temps sur Mars, on a à la fois la vraie mécanique qui a cette matière première de machine, et puis on a, qui a été créée par l'homme, et on a un véritable humain, et Jacques Bollen le voit, cet humain, et il le voit comme au travers d'un IRM. Il voit une sorte de mécanique, une sorte de squelette mécanique de cet humain. Il se rend compte que ce n'est plus un humain, c'est une machine, en fait, hein. Et c'est bien là le problème. Et si on prend maintenant l'exemple de Blade Runner, et des androïdes, donc de Blade Runner, les Nexus 6, eh bien, ces Nexus 6, qui sont Nexus 8 dans Blade Runner 2017, donc 2049, qui a été de Denis Villeneuve, donc le premier, c'est Ridley Scott, donc en 1982, eh bien, ces androïdes, eh bien, ils cherchent tout simplement à vivre au-delà des 4 ans auxquels ils ont droit. Ils ressemblent trait pour trait à des humains, et ce qui fait la différence, c'est le test Voight-Kampff, ce qui fait la différence entre effectivement l'humain et l'androïde, c'est l'empathie, en fait, hein. c'est pas on va dire la matière, hein, c'est le carbone par rapport au métal, c'est cette capacité à se mettre dans la peau de l'autre, l'autre étant d'ailleurs autant un humain qu'une araignée, hein, par exemple, hein, qu'un animal. Mais ce qui est assez fascinant dans Blade Runner, et moi, contrairement, j'ai des petites nuances par rapport à par exemple, ce que vous avez dit hier, Laurent, je pense que Rick Deckard, dans Blade Runner, dont les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, il est humain lorsqu'il s'occupe de son mouton électrique, comme si c'était un vrai mouton, mais il devient machine quand il tue les réplicants, les androïdes, qui ne cherchent qu'à vivre, et notamment, il y a des dialogues avec Rachel, qui est la plus humaine des androïdes, parce que tout simplement, au début, par exemple, du film, elle ne sait pas qu'elle est androïde, elle a le sentiment d'avoir une véritable mémoire, et l'un des messages du film qu'on retrouve d'une certaine manière dans le roman, peut-être de manière plus discrète, bah, c'est que potentiellement une machine faite de machines peut devenir ou peut être humaine.
Un extrait qui illustre ce que vous dites de Blade Runner.
Have you ever retired a human by mistake?
No.
But in your position, that is a risk.
Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response, fluctuation of the pupil, involuntary dilation of the iris.
We call it Voight Kampf for short.
Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
Demonstrate it. I want to see it work.
Where's the subject?
I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive.
What's that going to prove?
Il y a ce moment, en effet, dans Blade Runner où Rachel, cette réplicante, se demande si on lui fait passer un test d'empathie pour savoir si elle est capable, finalement, d'empathie et donc si elle est une femme ou seulement un robot, parce qu'elle n'est pas tout à fait au courant de son statut. C'est intéressant quand même cette question de l'empathie chez Kadic, chez Dick, pardon. Pourquoi, à votre avis, ce sujet-là en particulier le touchait à ce point?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Bon, je pense déjà qu'il y a, mais ça vous en avez déjà longuement parlé dans l'émission, son rapport à sa sœur jumelle. En fait, hein, donc, il ne l'a jamais connue. Elle a vécu sur Terre 3 semaines, je crois, de mémoire. Et en fait, il se sent en empathie permanente avec elle, alors même qu'il ne la connaît pas finalement. Bon, donc cette question de cette capacité à se mettre dans la place de l'autre et de l'être en plus le plus cher qu'il pourrait avoir, c'est quelque chose qui est pour lui assez essentiel. Ensuite, je crois que pour lui, ça va avec sa quête de ces deux questions principales finalement, hein, qui sont qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'humain, et au fond, voilà, pour lui, l'humain, et ça c'est son côté mystique, l'humain ne passe pas par la matière. Hein, l'humain, c'est quelque chose qui est au-delà de la matière, qui est quelque chose de plus transcendant.
C'est une attitude d'être humain.
Oui, pour lui, c'est vraiment une attitude. C'est une attitude à la fois qui accepte cette logique un peu transcendante, mais dans une sorte de matérialisme spirituel, c'est-à-dire venant en fait du terrain, et qui se concrétise dans l'incapacité à dire non. Hein, c'est le contrôleur qui se retrouve dans un train, et il se retrouve face à un jeune homme ou une jeune fille complètement perdue, en guenille, qui n'a pas son billet de train. Eh bien, s'il fonctionne comme une machine, il va se contenter de la pénaliser, de la prendre, et comme elle n'a pas de sous, de l'amener au flic. Si ce personnage, ce contrôleur ou cette contrôleuse, elle est humaine, eh bien, elle va discuter avec cette jeune fille, elle va essayer de l'aider. Mais même peut-être qu'elle paiera l'amende à sa place, ou qu'elle essaiera de trouver des solutions, et ce faisant, elle ira contre la règle, contre
donc l'androïde,
la loi, contre...
Dans l'univers de Dick, c'est le révélateur de la fibre humaine. Finalement, c'est une espèce de tentative de définition de qu'est-ce que c'est réellement que d'être un humain.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est assez rare, mais par exemple dans un roman qui s'appelle donc En attendant l'année dernière, à la fin de ce roman, il y a un robot taxi qui, dans un dialogue avec le personnage central du roman, fait preuve d'empathie en fait. Hein. Et ce faisant, cette machine, en quelque sorte, elle devient presque humaine. Et ce qui est aussi, moi, je me souviens quand il y a quelques années, au moment où il y avait donc maintenant ils sont de nouveau là, mais ils avaient disparu pendant un moment, les Aibo, les chiens robots en fait, hein, donc qui avaient créé une grande marque d'électronique, ces chiens robots. Eh bien, j'avais discuté avec un des chercheurs assez formidable d'ailleurs qui s'appelle Kaplan. Qui travaillait sur ces machines et qui m'expliquait qu'en fait, il leur fallait à la fois se tromper. Et à la fois se mettre à la place d'autres pour pouvoir progresser en fait. Hein. Il fallait qu'ils puissent se cogner. Il fallait qu'il y ait de l'imprévisible. C'est-à-dire que
il faut qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes. C'est le principe de l'apprentissage de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
C'est le principe de l'intelligence artificielle, même s'il y a quand même beaucoup d'éleveurs aujourd'hui, hein, de micro-tâcherons qui aident les mécaniques. Mais en tout cas, ce qu'a anticipé de façon assez assez folle, qui moi m'a toujours fasciné, Philippe K. Dick, il l'a notamment anticipé dans des romans, en fait. Je crois que c'est également en attendant l'année dernière, où il y a des chariots, des petits chariots qui sont montés par un ingénieur. Et ces petits chariots, en fait, il les fait vivre. Ils évoluent par eux-mêmes, ils apprennent par eux-mêmes. Mais ils sont complètement inutiles. Il y a une idée, moi, que je trouve absolument formidable, en fait, donc chez Philippe K. Dick, c'est que si l'on veut pouvoir espérer qu'un robot, qu'une petite machine puisse un jour être autonome, il faut qu'elles aient une part d'inutilité, voire qu'elles soient inutiles et qu'elles puissent se raconter des histoires, tisser des histoires entre elles.
Ce qui les rend humains d'une certaine façon. Hein.
Ce qui potentiellement les rend humains. Alors attention, la majorité des robots, des machines et androïdes chez Philippe K. Dick, à 90%, sont de pure mécanique qui n'ont absolument rien d'humain. Mais il y a 4 ou 5 exemples, voire même un peu plus, où, à l'instar de l'amibe télépathe de Ganymède, des clans de la Lune Alphane, qui fait preuve d'empathie en sauvant un être humain qui veut se suicider, elle passe sous sa porte parce que c'est une amibe, et elle va le convaincre de ne pas sauter par la fenêtre. Eh bien, des robots comme ce petit robot de En attendant le robot taxi de En attendant l'année dernière, qui est un autre roman de Philippe K. Dick, eh bien, il fait preuve d'empathie en expliquant à son client qu'il faut pas qu'il abandonne sa femme qui est très malade.
Est-ce qu'on était déjà, il y a quelques années, du temps des Tamagotchi, dans l'univers de Philippe K. Dick, quand on possédait ce petit animal, ce petit animal électronique?
Bah, je pense que oui. Je pense que autant avec le Haibo que le Tamagotchi, qu'avec tous les robots de compagnie qui maintenant accompagnent, notamment au Japon, beaucoup de personnes âgées, des gens très âgés, on se retrouve dans ce même type d'univers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on donne vie aux objets, en fait. C'est l'humain qui prête en quelque sorte. C'est un peu une sorte de retour un peu étrange de l'animisme via la technologie, en fait, hein. C'est-à-dire que, dans ces moments-là, d'ailleurs, dans ce type de démarche, ce qui est assez amusant, c'est que Philippe K. Dick est très critique par rapport aux technologies, par rapport à la façon dont les technologies nous rend conformes, nous transforme en moutons finalement,
en mouton électrique. Réflexe.
Voilà, exactement, en mouton électrique. Eh bien, d'un autre côté, il montre comment potentiellement ces machines peuvent elles-mêmes, au contraire, au fond finalement aller vers l'humain, parce que justement ce caractère humain et empathique ne dépend pas du carbone.
Alors ce qu'a peut-être anticipé aussi beaucoup Philippe K. Dick, c'est le basculement dans un monde où la réalité virtuelle prend de plus en plus de place, et en particulier avec les jeux vidéo.
Existence, written like this, one word, small e, capital X, capital Z. Existence. It's new, it's from Antenna Research, and it's here, right now.
Nous tenons à fidéliser notre clientèle et nous voulons que vous nous aidiez à tester nos produits. Nous formons une famille, Antenna et vous. Ceux d'entre vous qui ont déjà participé à nos séminaires savent que j'ai pour habitude d'initier moi-même les groupes à nos nouveaux jeux. Mais ce soir, ce ne sera pas moi. Non. Pour cette série d'essais et le lancement d'Existence par Antenna, nous avons choisi de faire appel à un guide tout à fait exceptionnel. Oui. La plus grande créatrice de jeux de la planète est ici, en personne, avec nous, pour vous initier ensemble à sa toute nouvelle création, Existence, produit par Antenna. Je vous présente la grande prêtresse du GamePod, Allegra Geller.
Le monde des jeux est plongé dans une sorte de léthargie. On programme les gens à accepter tellement peu de choses, alors que les possibilités sont immenses. Existence, c'est autre chose qu'un jeu. C'est tout un nouveau système. Et il fait appel à une série de nouveaux jouets que vous serez les premiers à essayer.
On parle toujours de Philippe K. Dick dans la compagnie des œuvres sur France Culture, avec ce moment du film Existence qui est le moment de la présentation de ce nouveau jeu révolutionnaire qui fait entrer les joueurs dans une réalité virtuelle évidemment plus séduisante que la réalité. Là encore, un écho à notre réalité d'aujourd'hui, Ariel Kirou, cette omniprésence du jeu vidéo qui se veut de plus en plus réaliste, de plus en plus immersif.
Oui, j'en suis assez convaincu. D'ailleurs, une anecdote sur Existence de David Cronenberg, c'est que à un moment du film, dans le premier tiers du film, à un moment donné, on voit un sac en papier où il y a écrit poupée patte. Et ça, poupée patte, c'est la référence au système de réalité virtuelle du Dieu venu du Centaure de Philippe K. Dick, donc roman qui donc a été publié en 1964. Ça veut dire que David Cronenberg dans ce film fait un clin d'œil tout à fait appuyé à Philippe K. Dick, hein. Voilà, c'est vraiment une citation.
Mais est-ce que K. Dick lui-même, s'est interrogé ou semble s'interroger dans ses ouvrages sur les dangers éventuellement de l'IA, de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'au contraire, il aime l'idée qu'il va y avoir, car c'est très probable, une intelligence artificielle qui va être capable de choses absolument spectaculaires comme on peut le lire dans ses ouvrages?
Je crois qu'il est au-delà de je pense qu'il y a, bon, il y a les deux notions, hein, la notion d'intelligence artificielle et celle de réalité virtuelle, sur lesquelles on peut revenir. Sur l'intelligence artificielle, au fond, je pense que, d'une certaine façon, il craint pas l'immense système d'IA qui nous transformerait en animaux de compagnie. D'ailleurs, bon, en même temps, chacun de ces romans, la vision de l'IA est très très différente, très variable. Par exemple, dans Siva, qui est un roman beaucoup plus tardif, puisque c'est un roman qui date de un an avant sa mort, donc c'est un roman de 1981. Qui est un roman assez fou, hein, assez baroque, même s'il est dans une sorte de quotidien. L'IA est une sorte de dieu, une sorte c'est un être bizarre, et l'IA se confond avec la pitié, avec voilà. Donc l'IA chez lui est très très à de multiples formes. Et d'ailleurs dans ce roman, Siva, il parle du plasme, qui est la manière dont l'information devient vivante. Et au cœur de l'intelligence artificielle, il y a cette croyance que l'information est la clé de la vie plutôt que la matière, là encore, en fait, hein. Donc, on va dire qu'il est très ambivalent par rapport à l'intelligence artificielle. À la fois, il a une peur tenace de la façon dont la technologie, et notamment les IA, nous transforme nous-mêmes en machines, et au fond, un peu à la façon de la machine éducative de Glissement de temps sur Mars nous rend conforme. Et de l'autre, il a cette fascination pour une sorte de d'IA qui serait on ne sait quoi, mais qui potentiellement pourrait en quelque sorte nous aiguiller, nous aider à naviguer dans le temps et dans la politique. Donc voilà pour l'IA.
Et pour la réalité virtuelle, oui.
Sur la réalité virtuelle, alors là en l'occurrence c'est encore très différent, parce que même s'il n'imagine pas les systèmes de réalité virtuelle d'aujourd'hui ou les jeux vidéo tels quels, il y a quelque chose qui est très très présent dans ses romans et dans pas mal de ses nouvelles, c'est cette capacité d'individus à vous faire venir dans leur propre tête, dans leurs propres univers. Il y a notamment une nouvelle qui s'appelle « Le monde qu'elle voulait », où on a un personnage qui se retrouve dans le monde d'une femme qui fait changer le monde au fur et à mesure du temps pour essayer d'amadouer ce personnage. Il aime le jazz, donc elle le fait entrer dans un club de jazz. Donc ce qui est assez fascinant dans cette nouvelle, c'est qu'on est vraiment totalement dans l'univers de la réalité virtuelle, même s'il n'y a pas ce mot de réalité virtuelle. Et d'ailleurs, la chute, c'est qu'on se rend compte que c'était lui qui manipulait la femme. C'est qu'il y a une sorte de renversement, à un moment donné. On ne sait plus qui manipule qui. Et c'est vrai que dans les beaucoup de textes donc de Philip K. Dick, je pense aussi à L'œil du cyclone, qui est un roman de 1956, qui est un roman assez ancien, mais qui est assez passionnant. Tout le roman est construit sur des personnages qui rentrent dans les univers d'autres personnages. C'est suite à une sorte d'accident nucléaire dans un lieu. Il y a notamment des scènes, mais à mourir de rire, d'un univers créé par un personnage qui est une sorte de caricature d'islamisme homophobe et totalement vraiment genre ringard, serré. Ouais, c'est un roman très très drôle où on voit le danger de vivre dans des univers pensés, imaginés par d'autres. Hein.
Ou alors donc, même des univers parallèles qui ne sont pas des univers de réalité virtuelle, mais l'univers dans lequel on entre quand on fait usage de drogue.
Plus tard, dans la pénombre, il émergea de ce qui en somme lui avait servi de fixe. À côté de lui, Connie ronflait. Elle était couchée sur le dos, les bras le long du corps, par-dessus les couvertures. Il distinguait vaguement ses traits. Les junkies dorment comme le comte Dracula, songea-t-il. Le regard fixe, puis tout d'un coup, il se redresse. Comme un mécanisme réglé pour passer de la position A à la position B. Il doit faire jour, dit le junkie. Ou du moins, c'est la bande-son dans sa tête qui dit ça, et lui donne ses instructions. Chaque junkie est un enregistrement, se dit-il.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Très court extrait du roman Substance mort de Dick, parce que la drogue, c'est aussi une façon de flouter au fond la frontière entre la fiction et la réalité, comme l'est la réalité virtuelle, et c'est au cœur de toute la problématique dickienne. Ariel Kirou.
Oui, Substance mort est un roman très 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 noir. Et l'une des caractéristiques de ce roman, qui est un roman des années 70, qui est un roman un peu tardif, là encore, je crois qu'il est publié en 1977 aux États-Unis, c'est qu'effectivement, cette substance, hein, la substance M, hein, c'est comme ça qu'elle est appelée, est une substance assez dure. Et le personnage central donc du roman, qui est d'ailleurs dans un film de Richard Lindlacker, qui s'appelle Scanner Darkly, est joué par... c'est un film, une sorte de dessin animé, mais où c'est joué par... j'ai oublié l'auteur, Keanu Reeves. Voilà, Keanu Reeves. Eh bien, Keanu Reeves, en fait, il se retrouve à la fois en flic des stupes, chargé de se regarder lui-même, mm-hmm. en fait, en tant que junkie. Hein. Donc, en tant que flic des stupes, il a une sorte de complet brouillé, c'est-à-dire un système qui fait que personne ne le reconnaît, et donc il se surveille lui-même. Donc, il est son auto Big Brother, en fait. Et je crois que ça aussi, c'est une des clés des œuvres de Philip K. Dick, c'est que on se rend compte qu'on est nous-mêmes, en fait, nos propres esclaves.
Comment alors l'est-on aujourd'hui? Notre propre Big Brother.
Notre propre Big Brother, on l'est tout simplement. Alors nous, on l'est en fait dans nos données, on est en acceptant de suivre les routes ou les autoroutes de l'information, de notamment des GAFAM. Alors à l'époque de Dick, évidemment, ça n'existe pas. Mais lui, ce qu'il met en scène, c'est effectivement ce flic des stupes qui se surveille lui-même. Donc on se surveille nous-mêmes, on accepte quelque part de céder une part de notre liberté, et puis de plus en plus de part de notre liberté, de notre libre arbitre. Et puis au bout d'un moment, on se rend pas compte effectivement qu'on n'est plus qu'une machine. On retrouve l'idée de la machine réflexe. On croit être dans notre réalité, dans une réalité maîtrisée, en fait, alors qu'on n'est plus que gouverné par cette réalité. Hein? Et donc, c'est là où toutes les thématiques de Philip K. Dick se rejoignent, au fond, finalement, sur cette double question de la réalité et de l'humain. Hein? Et et effectivement, avec, au fur et à mesure du temps, et Substance Mort est un très bel exemple de la chose, ces logiques de manipulation, mais de manipulation qui n'ont pas forcément besoin d'un grand manipulateur. On n'est pas dans les théories du complot. Hein? Mm-hmm. On est sur au contraire, sur moi, je me souviens d'avoir fait un livre sur Google où je parlais un peu de Philip K. Dick et de Minority Report, et je l'avais sous-titré Big Brother n'existe pas, il est partout. En fait, et bien cette idée que Big Brother n'existe pas, mais qu'il est partout en chacun de nous, elle est déjà présente, notamment dans Substance Mort, alors qu'elle n'est effectivement pas forte du tout, voire quasiment inexistante, dans le grand classique de George Orwell, 1984.
Donc il n'est pas orwellien en tant que tel. Est-ce qu'il y a quand même chez lui des mentions d'un certain rapport à Orwell, ou est-ce que c'est complètement en dehors de son champ mental et de son univers créatif?
Non, il y a des mentions à Orwell, en fait, hein. Il y a plusieurs, la logique de la surveillance globale, est très, très, très présente dans beaucoup des romans de Dick. Donc non, il a lu 1984, c'est clair, il y a absolument pas d'ambiguïté par rapport à ça. De la même façon qu'il a été très, très inspiré, par les joueurs du non-a de Van Vogt avec la machine des jeux. Donc Van Vogt est un écrivain des années 50 qu'il a connu au tout début de sa carrière, en fait, hein. Donc, lorsqu'il décrivait ses premières nouvelles en 52, 53, 54, 55. Donc oui, il est bien évidemment qu'il est au courant et que sa littérature est très imprégnée de ce qu'on appelle la dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative. La seule chose, c'est que là où, par exemple, chez Orwell, l'utopie négative est très franche, très bien délimitée, très très radicale, au fond,
très compréhensible aussi.
Tout à fait, est compréhensible. Chez lui, elle est beaucoup plus foutraque, hein, et elle est beaucoup plus intériorisée. Voilà. Hein, elle passe par des tas de voies multiples. D'ailleurs, il peut se contredire de nouvelle en nouvelle ou de roman en roman. Et cette logique de l'autosurveillance, cette logique de la surveillance globale, de l'autocontrôle, et du contrôle, parce qu'il y a aussi du contrôle, elle passe par, une myriade de petits détails, de mécaniques, de rapports de pouvoir, et c'est ça qui fait le sel, on va dire, de Philip K. Dick, c'est que à aucun moment on a parce que une grande dystopie comme celle de Orwell, elle fonctionne par excès de politique. Il y a chez Dick, et c'est là où il est très contemporain.
C'est plus Foucauldien, le côté microphysique du pouvoir, justement.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la dystopie, c'est-à-dire la négativité, du quotidien, elle passe par l'absence de politique et par une multitude d'influences, de logiques de surveillance.
Mais du coup, il n'y a pas tellement à se révolter, parce que il n'y a pas. Enfin, c'est plus difficile de se révolter dans un monde comme celui-là, parce que s'il n'y a pas un pouvoir à abattre qui serait très défini, dont dont on pourrait nommer le nom, dont on pourrait donner le nom, eh bien c'est plus compliqué que de se révolter pour les personnages de Kadic, non ?
Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que les personnages de Kadic sont plus des révoltés que des révolutionnaires. Il y a une nouvelle qui s'appelle Là où il y a de l'hygiène, qui finit très mal puisque le personnage central meurt. Il y a d'autres personnages dans des romans de série B, de Dick, comme le profanateur, qui à un moment donné, bah, ce profanateur, c'est un gars du commun qui décide à un moment donné de jeter un pot de peinture, de saccager la statue du grand commandeur de l'époque. Et en fait, c'est un geste totalement intuitif, sensible. En fait, il a un rapport très, comme je disais, très foutraque, très sensible à la révolte. En fait, ces personnages se révoltent sans même savoir pourquoi, ni comment, ni contre qui.
Mais ils comprennent très bien ces personnages.
Et c'est ça qui est à la fois.
Pardonnez-moi, il y a un petit délai. Oui. Ils comprennent très bien ces personnages, la logique du capitalisme. Vous citez par exemple le robot vendeur de services avant achat, qui est une nouvelle parue en 1978, si je ne me trompe pas, dont on pourrait peut-être dire un mot pour terminer cette émission, parce que elle est vraiment, pour le coup, extrêmement contemporaine, et elle raconte bien le rapport que aujourd'hui on a avec des entreprises qui sans cesse nous vendent des choses.
Oui, ben il y a la publicité par exemple chez lui qui est très présente en fait, hein, puisque la publicité, d'ailleurs dans Minority Report, il y a un extrait de cette nouvelle, je crois, ou de visite d'entretien, où la publicité parle directement au cerveau de personnages, on va dire. Hein. Il est dans la route vers Ganymède, dans une sorte de vaisseau de petit vaisseau. Donc oui, alors c'est alors évidemment en fonction des on va dire des exégèses, hein, des exégètes de Kadic, il y a des variantes. Moi je crois que à aucun moment il avait une analyse très strictement marxiste de ce qu'il pouvait vivre du quotidien. En revanche, il avait une logique critique de ce qu'il vivait du capitalisme et de la société de consommation qui était très très forte, hein. Ça effectivement, je pense que Étienne ou Laurent vous l'ont dit, il a jamais vécu avec beaucoup d'argent et la façon dont les publicités, la façon dont les commerçants pouvaient attirer le chaland, l'exaspérer au plus haut point. Et l'exemple que vous donnez de
service avant achat,
cette nouvelle, donc voilà, service avant achat, est typique de ça. Effectivement, je crois que c'est ça où il y a un robot qui arrive et qui essaye de tout faire pour vendre son produit donc à l'Américain moyen ou au personnage de la nouvelle, au point de tout détruire. Et effectivement, on retrouve cette logique de fable de Philip K. Dick, hein. C'est-à-dire, il vit quelque chose et il l'exagère. Et comme notre époque est elle-même exagérée par rapport à l'époque qu'il a vécue, soudainement, sa nouvelle de 1956 ou de 1964, eh bien, elle devient encore plus valable aujourd'hui parce que son exagération qui était totale à l'époque, elle nous parle encore plus aujourd'hui parce qu'effectivement on vit cette capacité de la société de consommation, des entreprises capitalistes à utiliser tous les moyens pour nous convaincre qu'ils vont faire notre bonheur.
Est-ce que en 30 secondes, il y a une chose qui vraiment vous inquiète et que vous retrouvez dans la vie d'aujourd'hui, dans l'univers dickien? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, vous?
Dans l'aujourd'hui, mm-hmm. qui serait que Dick pourrait aider
en 10 secondes, ouais.
Alors moi, je crois que la chose vraiment qui en 10 secondes, oui. En 10 secondes, c'est la façon dont nous transformons nous-mêmes en machines réflexes. La façon dont nous perdons notre capacité à dire non. Je pense que c'est vraiment la clé de Dick et comment pouvons-nous faire pour ne pas devenir des machines?
Voilà, et ben on va méditer sur cette question. Merci beaucoup Ariel Kirouge. Je renvoie évidemment nos auditeurs à votre livre L'ABC Dick aux éditions Inculte qui reparaîtra en septembre prochain si tout va bien. Je rappelle également toujours chez ActuSF cette fois votre ouvrage qui vient de paraître intitulé Dans les imaginaires du futur entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale. La compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Jean-Frédéric.